Vincent Guenzi, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes stratégiste chez Cholet-Dupont. On va parler avec vous de stratégie d'investissement, de perspective. Comment vous abordez les marchés en ce moment avec, on peut le dire, toujours les banques centrales à la manœuvre? Qu'est-ce qui change le plus selon vous?
Alors c'est vrai que la présence des banques centrales constitue une espèce de parachute, de soutien pour les marchés. Mais on voit bien qu'on manque un petit peu de dynamisme, un peu d'allant, parce que la croissance économique en Europe est toujours assez faible, voire morose dans certains pays. Et puis les résultats ne sont pas encore tout à fait probants. On révise toujours encore un petit peu en baisse les résultats. La tendance va peut-être s'inverser, mais ce n'est pas encore tout à fait sûr. Donc on voit bien que les marchés sont partagés entre une direction qui vient des États-Unis qui est assez porteuse et une direction européenne qui est un peu molle. Donc ça explique un peu pourquoi les marchés sont encore un peu hésitants. On a réagi à la hausse, à l'annonce des dernières mesures de la BCE et puis on consolide un petit peu en ce moment. Mais je crois que il n'y a pas de gros risques aujourd'hui en Europe. Il y a encore l'hypothèse du référendum écossais, on verra bien ce que ça donne, et puis la situation en Ukraine qui n'est pas encore totalement aplanie. Donc voilà, il y a ça, il y a ces incertitudes géopolitiques. Donc ça brime un peu les marchés, ça les empêche de progresser, mais on formule quand même une hypothèse de hausse raisonnable des marchés dans les prochaines semaines pour revenir tester les points hauts qu'on avait vus en Europe au printemps.
Oui, parce qu'on peut dire que du côté des entreprises, il manquait justement cette progression des résultats. Est-ce que ce qui se passe sur les devises, ce qui est en train de depuis effectivement quelques semaines maintenant, et la faiblesse de l'euro va pouvoir un peu peut-être changer la donne?
Oui, c'est quelque chose que l'on attendait et qui est en train effectivement de se mettre en place. Donc la traduction dans les comptes, on le verra peut-être au courant de l'année prochaine, au premier semestre ou au premier trimestre. Mais c'est vrai que d'un point de vue boursier, ça redonne un petit peu de force à des compartiments du marché qui étaient un peu délaissés, un peu le secteur de l'aéronautique, le secteur du luxe, des secteurs exportateurs bien entendu, qui vont bénéficier de la dépréciation de l'euro.
Alors aux États-Unis, on pourrait dire tout de même qu'il y a un débat sur ce calendrier de hausse des taux. Il y a certains effectivement qui voudraient que ça aille un peu plus vite, certains membres qui voudraient que ça aille un peu plus vite. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut quand même pas avoir un peu de prudence par rapport au schéma que tout le monde, enfin consensus finalement, consensus global?
Oui, bien sûr. Je crois que le consensus est vraiment en train d'évoluer. On sait qu'il va y avoir, à un moment donné, des modifications de la politique monétaire, et on commence à être bien convaincu par le discours de la présidente de la Fed qui dit nous allons rester très pragmatiques. Donc cette hausse des taux sera très très progressive pour ne pas risquer de casser la croissance américaine. Et la hausse des taux par répercussion sur le marché obligataire sera également assez douce. Donc ce qui est en train de sortir de l'esprit des investisseurs, c'est que le jour où la Fed commencerait à changer sa politique monétaire, ça se passerait très mal pour les marchés. Je pense que dans un premier temps, les marchés accepteront ça parce qu'on les aura préparés. Et ça permet peut-être d'avoir des perspectives pour le marché américain un peu plus élevées pendant l'année 2015 que ce que l'on avait au départ. Ça nous donne un potentiel d'appréciation supplémentaire parce que tant que les marchés restent convaincus que les taux d'intérêt ne seront pas un ennemi pour les marchés actions, on va pouvoir revaloriser les marchés actions. Comme il y a de la croissance des résultats, ça devrait quand même faire un potentiel de hausse un peu plus important pour les marchés américains, 10, 15, 20%, on verra.
Alors il y a eu, si on fait un petit retour en arrière cette année, pas mal de surprises sur les marchés obligataires. On l'a vu en début d'année, on l'a vu encore cet été, des marchés obligataires qu'il fallait peut-être délaisser, mais quand on regarde la performance, on se dit mince, il y avait peut-être pour l'investisseur des opportunités.
C'est vrai, ça fait partie des nombreux contre-pieds que l'on voit en bourse. Peu d'investisseurs, peu de gérants prenaient un pari fort sur les marchés obligataires en début d'année, surtout sur les marchés les plus sûrs, hein, les États-Unis ou l'Allemagne. On avait tous conscience que les taux pouvaient baisser en Europe périphérique, mais voir des taux allemands en dessous de 1%, il fallait vraiment être dans le camp des déflationnistes pour jouer cela. Et puis peut-être qu'en cours d'année, il y a eu des hésitations à venir jouer ce marché obligataire parce que on se disait les taux sont déjà très bas, le jour où les taux américains remonteront, on sera pris un peu à contre-pied, on va peut-être pas gagner grand-chose. Or, en fait, c'est vrai que sur 3 ou 4 mois, il y a eu quand même des perspectives, des progressions des marchés obligataires de 2, 3, 4% nominal parfois. Donc ça valait le coup, vous avez raison. Est-ce qu'il faut encore y aller aujourd'hui? C'est exactement le même débat. Acheter des taux allemands en dessous de 20%, moi, j'ai vraiment pas envie. Des taux américains, je pense qu'on est un peu protégé parce que la hausse du dollar pourrait compenser une petite moins-value en cas de petite hausse des taux 10 ans américains. Les taux périphériques ont encore peut-être un petit potentiel d'appréciation à la baisse. Donc, garder ces produits-là, oui, en acheter davantage aujourd'hui, ça devient toujours un peu plus compliqué.
Alors, du côté des grands marchés, hein, il y avait eu, il y a quelques années de ça, un grand pari sur les pays émergents. C'est vrai qu'on parlait de cette croissance des pays émergents. On peut dire que là, avec la récession au Brésil, par exemple, on peut être surpris par le fait que, oui, des pays comme le Brésil peuvent sombrer rapidement.
Bien sûr, bien sûr. Je crois que l'élément important cette année sur les pays émergents, enfin les deux éléments importants, c'est premièrement une reprise globale que l'on a vue sur les marchés émergents parce qu'il y a eu un retour au calme, sur le plan des devises. On a moins craint la hausse des taux américains, le reflux de l'argent des capitaux vers les États-Unis. Donc l'argent est revenu vers les pays émergents, ça fait une appréciation plus forte que l'on pouvait croire. Et la deuxième chose, c'est l'hétérogénéité. C'est-à-dire qu'au sein des pays émergents, c'est devenu extrêmement difficile de le jouer globalement parce qu'effectivement, il y a le Brésil qui est en récession, il y a la Russie qui subit les contre-coups de la crise ukrainienne, la Chine va mieux, mais il y a 3-4 mois, ce n'était pas si évident que ça. Le Mexique est plutôt en tête. Bon, ça tourne très vite au sein des pays émergents. Et c'est donc une classe d'actifs qui est probablement plus compliquée à appréhender sur le plan boursier et qui demande vraiment beaucoup de doigté, beaucoup de timing. Et je crois que ça rend quand même difficile l'investissement là-bas.
Alors, plus compliqué. Plus compliqué. Si on reste en Asie, il y a bien sûr la question du Japon, avec donc les fameuses Abenomics, et puis cette hausse de TVA. Est-ce que pour vous, ça remet en cause, je dirais, ce qui peut se passer au Japon, ou ça va, au contraire, valider un petit peu ces théories économiques?
Écoutez, pour l'instant, je temporise. C'est-à-dire que je pense que par rapport au scénario qu'on pouvait avoir sur le Japon il y a 3-4 mois, les choses patinent un petit peu. Ce qui n'est pas aberrant compte tenu de l'ampleur de la hausse de la TVA qui a été pratiquée, de l'impact que ça a eu sur la consommation et sur la croissance au deuxième trimestre. Les premiers signes montrent quand même que le troisième trimestre devrait être un peu meilleur et que le pays devrait arriver à effacer un petit peu ce choc de la TVA. Mais ce qui manque vraiment maintenant au Japon, c'est une politique salariale un peu plus dynamique pour redonner du pouvoir d'achat et relancer la consommation. Le yen continue à se déprécier par rapport au dollar, donc c'est plutôt positif pour les exportateurs japonais, mais le pays est encore confronté à des défis gigantesques. C'est pour ça que, pour moi, c'est encore un espèce de pari, parce que c'est un marché qui reste pas cher et qui a sous-performé pendant des dizaines d'années, et que j'ai envie de jouer un petit peu, mais ce n'est pas encore totalement convaincant.
Un mot des matières premières, on peut être étonné de voir le niveau du baril, le prix du baril de pétrole, oui, compte tenu des conflits qu'on peut voir dans certaines zones, en Irak, en Libye. On aurait pu penser qu'à d'autres périodes, que ça aurait eu un impact. Oui, là, finalement, alors, est-ce que c'est un signal de l'économie mondiale qui a du mal à repartir?
Non, je pense que c'est directement corrélé à l'évolution du dollar. Pendant la période 2003-2012, où le dollar se dépréciait, et puis il a commencé à s'inverser en 2009, vous savez qu'il y a eu un énorme boom sur toutes les matières premières, sur l'or, qui a fait quasiment une bulle, faut le dire. Donc je pense que là, nous sommes revenus depuis quelques mois dans une période de réappréciation du dollar. Par contre-coup, il y a de la faiblesse sur les matières premières qui ne jouent plus, comme l'or, leur rôle de protection, de valeur refuge quand il y a des crises.
Merci Vincent Ganzi d'avoir été avec nous.
Merci.